Radio Libertaire, émission Chronique Hebdo, vous le savez, jusqu'à midi, et je vous l'avais annoncé au début de l'émission, à partir de 11h, donc Jean-Michel Chesnais était l'invité de l'émission Chronique Hebdo. Je vous avais dit tout à l'heure, la possibilité que vous aviez, c'était d'aller voir sur le blog, hein, puisque... Je sais pas, Jean-Michel, si tu l'as vu, j'avais mis artiste singulier, ce que pour les auditeurs, hein, déjà de connaître, ou les gens qui avaient envie de voir les émissions, hein, puisque je le rappelle, l'agenda de Radio Libertaire, vous pouvez avoir ça sur Internet, peintre, sculpteur, alors bâtisseur d'une grotte chapelle dédiée à l'imaginaire à Malakoff, et ça on va en parler, hein, avec toi et tout à l'heure. Collectionneur, alors surtout j'ai évoqué aussi les cartes postales anciennes, en particulier celles sur l'environnement. Après, co-auteur, où tu as participé à des revues d'art, En Marge plutôt. Et alors, comme je l'ai cité tout à l'heure, Zonard, il y a évidemment Gazogène, hein, on va en parler. Il y a Eurovision, il faut le dire aussi, parce que c'est là. Et donc, et puis la Création Franche, hein. Voilà, qui est le dernier numéro magnifique que j'ai reçu. Et puis aussi, en particulier, bah, il se tient, puisque c'est l'actualité, une nouvelle exposition donc qui a lieu à Viroflay. Je vais vous le dire exactement, c'est l'adresse que j'ai. L'adresse, c'est, je vais vous le dire, 1 rue Robert Cahin. À Viroflay, c'est, je vous l'ai dit au début de cette émission, dans les Yvelines, ça s'appelle à l'écu de France. Ouais. Voilà, le lieu. Alors, donc, on fera pas de jeu de mots, l'écu de France. Si vous voulez les voir, ils sont là-bas aussi. Et donc, cette exposition s'appelle, exposition collective, une quinzaine d'artistes, tu vois, et ça s'appelle Folle Dentelle.
Exactement.
Alors, si tu veux, on va peut-être juste parler comme ça, on va en parler tout de suite, parce que c'est important quand même, cette exposition, les gens. Et alors, je vais présenter, j'en avais parlé, par rapport, on peut dire, tes œuvres, soit les dessins ou tableaux, on appelle un peu des gens, alors comme on a dit, on va dire un peu pour les gens qui regardent le tableau, le regardeur fait le tableau, donc tout de suite parler de dentelle par rapport à ton travail.
Oui, c'est la raison pour laquelle j'ai été invité à cette expo collective montée par le service culturel de la ville de Viroflay. Donc apparemment c'est l'équipe qui était en place depuis un petit moment avait l'air de s'intéresser à l'art singulier, outsider et apparenté depuis plusieurs années, puisque j'avais remarqué que la programmation faisait appel à ce type de famille d'artistes. Et là, pour cette année, on m'a contacté d'une manière inopinée, c'était une bonne surprise, pour faire partie de cette expo collective de 15 artistes qui travaillent sur le sujet plutôt, disons, de manière textile, mais qui revisite la dentelle, à savoir qu'il s'agit plus d'installations, de sculptures en 3D, à partir de cette technique artisanale et populaire. Donc moi je suis, je crois, parce que j'ai pas été voir la teneur de tous les autres travaux, on est une quinzaine, mais je pense être le seul qui propose du dessin. Donc j'ai un dessin qui est fait d'entrelacs réalisé avec une pointe alors, fine.
La technique, alors pour ça, puisqu'on parle d'un stylo particulier, l'encre blanche.
Oui, c'est-à-dire que je fais des silhouettes à l'encre de Chine noire que je remplis d'un entrelacs très dense, réalisé avec un stylo à l'encre blanche, une sorte de bic blanc, sorte de stylo blanc. Donc je déroule un fil infini au gré de mon inspiration. C'est une sorte d'improvisation avec une base formelle stricte.
Pour ce que l'on peut dire des thèmes que tu proposes justement dans ces dessins, certains parlent d'un imaginaire fantastique, d'être hybride. J'ai lu ça, et puis aussi, tu dis, Bon, alors là, voir un rapport, peut-être, avec des peintures tribales de l'Inde, par leur technique, j'ai vu ça, et aussi des apparentements avec la mythologie japonaise.
Oui, en fait, ça... je parle de ça, c'est pas moi qui en parle, en fait. C'est le texte qu'on a pu écrire sur moi.
Oui.
Enfin, sur mon travail, on va dire.
Oui, oui.
Et donc, effectivement, par rapport aux peintures tribales, là, c'est plus une amie qui a sillonné l'Inde et qui a ramené tout un ensemble de dessins réalisés par les femmes dans les villages, donc qui sont vraiment différents de l'art indien qu'on connaît, que le grand public connaît. Donc chaque village a son style, et parmi ces dessins, j'avais noté justement des grandes fresques très narratives qui racontent un peu toute la mythologie du village et puis son histoire, réalisées par des femmes avec des pointes fines à l'encre blanche sur du papier marron. Et donc ça m'avait tout de suite parlé. Mais c'est bien plus tard, hein, ensuite, quand je suis venu à cette technique, que j'ai fait le lien. Donc j'en ai parlé à la personne qui m'interrogeait. Quant au dessin japonais, c'est là, je connais pas la source exacte. C'est la personne qui a écrit l'article qui en parlait. Donc quant à moi, c'est vrai que je parle souvent d'une mythologie personnelle, une sorte de peuple, de personnages un peu hybrides. Il y a beaucoup d'animaux, il y a beaucoup de nature dans ce que je fais. C'est quelque chose de... On parle aussi de chamanisme, parce que c'est une ode un petit peu à la nature. Et des sortes de... Il y a une sorte de... pas de spiritisme, de spiritualité, je dirais pas jusque-là, mais quelque chose, une sorte d'ode à la nature, oui, on va dire ça.
Alors, ça, justement, alors on va rappeler aux auditeurs que vous pourrez voir ces formats. Alors, au site, l'évolution à partir du moment où tu as commencé et puis maintenant où tu en es arrivé, à faire plutôt là ce qui sera montré à, je vous le rappelle, à cette exposition, donc à Viroflay, à l'Écu de France, tu parles de grands formats. Alors, pour les auditeurs, un peu, les grands formats, c'est quelle
donc proportion? En conservant l'échelle de mes dessins fins, enfin, de mes dessins de taille moyenne ou normale, on va dire, j'ai, pour une expose très spécifique réalisée et montée par, coordonnée par Laurent Danchin, une expo qui s'appelait Mycélium,
oui,
qui a eu lieu en Haute-Marne, près de Langres. C'est l'abbaye d'Aubrive, une très belle expo qui réunissait tout un corpus d'artistes.
Oui.
Je me suis dit qu'il était important d'avoir ce qu'on appelle quelques œuvres muséales, même si c'est prétentieux, mais je pense que maintenant, c'est bien de marquer les esprits avec des choses fortes. Et donc j'ai réalisé trois grandes bâches d'un mètre cinquante de côté. Donc ça fait un triptyque de 4,50 mètres avec cette technique. Donc à Viroflay, ils avaient l'air intéressés puisqu'ils ont la place. C'est un grand lieu,
très
beau. Je suis content de pouvoir les montrer parce que c'est pas évident de pouvoir montrer ce genre d'échelle, enfin ce genre de travaux.
Alors, le rappeler tout de suite, c'est aujourd'hui, ça ouvre aujourd'hui, ça se tiendra du 12 février, donc aujourd'hui, au 22 mars 2015. Ce soir, on va le rappeler, je vous le rappelle l'adresse tout de suite, l'Écu de France, rue Robert Quin, Viroflay. Il y aura l'entrée tous les jours, entrée libre, et la sortie aussi, de 14h à 19h. Alors, là aussi... Pour cette expo, donc on parlait d'une quinzaine d'artistes,
oui.
Et le thème de l'exposition, l'intitulé « Folle dentelle ». Alors pour les auditeurs, enfin, pourquoi « Folle dentelle » ? Et puis aussi, ça tourne, comment faire de la dentelle autrement que si on demande, on pose la question à une personne, qu'est-ce que c'est que de la dentelle, faire dans la dentelle, est-ce que vous faites dans la dentelle, et de voir que là, il y a plusieurs matériaux, c'est une autre façon de réinterpréter, de proposer donc de la dentelle, mais sous des formes soit métalliques, avec des
c'est la dentelle
matériaux,
dans tous ses états. le principe de base est principalement textile, mais effectivement, quand tu le dis, il y a des artistes qui ont utilisé d'autres matériaux pour réaliser ça. Je vais peut-être lire un tout petit extrait du dossier de presse qui... C'est deux phrases qui résument bien un peu cette expo. Folle dentelle, c'est la dentelle revisitée, passée au crible, réinventée dans des matières inattendues. Qu'elle soit cousue de fil de fer ou sculptée finement dans les veines du bois, elle se fait tantôt monumentale, tantôt exubérante. Donc il faut s'attendre à toutes sortes de choses un peu déconcertantes. Mmh. On va pas être dans les napperons ni les petites
dentelles de... Exactement, voilà. à partir de ça, parce que donc la représentation pour l'ensemble des personnes, de dire, comme je te dis, l'expression pour pas faire dans la dentelle. Alors rappelons-nous aussi, si c'est pour le cinéma, il y avait le fameux film de Capra, Arsenic et vieille dentelle, parce que vous aurez de l'arsenic, c'est pas de la disposition. Et puis il y avait La Dentelière, hein, aussi, le film avec Isabelle Huppert. Alors, le thème, justement, on parlait de l'imaginaire, l'importance de l'imaginaire, et quand on l'a évoqué, moi j'ai évoqué ça ce matin, alors le point de départ, de dire un petit peu comment toi, depuis plus de 30 ans, hein, comment tu es venu, ton parcours, je sais le choc que tu as eu au palais, bon ça remonte à peut-être 1992, hein, ce que je sais pour le facteur cheval. Là, c'est pas au Brive, mais c'est à Haute-Rive, hein, et ton orientation, ton goût pour l'art brut, et on va voir ça à partir de la construction, puisqu'on l'évoque, on peut voir, hein, c'est justement la grotte chapelle de Malakoff, qui est installée toujours à Malakoff dans un jardin, donc à Malakoff pour les gens de qui sont pas en Île-de-France, c'est tout près de Paris.
Oui, ça touche Paris, au niveau de la porte de Vanves.
Voilà, et en situation, ça reste encore par rapport, on pourrait dire, à l'installation, l'architecture, les bâtiments, il y a des constructions, il y a des petits pavillons, il y a encore des petits jardins, hein, donc tout près de Paris, puisque c'est de l'autre côté du périphérique. Mmh. Et comment tu en es venu justement à cette idée de construire donc cette grotte chapelle? Alors je signale quand même aux auditeurs tout de suite, vous pouvez la voir, hein, y a une vidéo sur internet, vous faites justement un petit moteur de recherche, on le dit, Jean-Michel Chesnais, on verra, on en parlera,
oui, elle sort dans les premières occurrences,
ouais. Et ça dure à peu près il y a à peu près 24 minutes, en même temps tu montres ton travail là justement actuel, et puis aussi donc ce reportage dans ton jardin, et alors on voit aussi beaucoup de choses, alors la grotte chapelle on va en parler, et puis aussi les mosaïques à l'intérieur du jardin, sur les murs, les sculptures aussi, hein, parce qu'on a dit peintre et sculpteur, alors avec les têtes de céramique, les sculptures en plastique fondu, et la particularité pour cette grotte chapelle, alors j'avais vu le fait de parler de clochers, de fresques, de chapiteaux et tourelles qui ornent cette grotte chapelle à Malakoff, au cœur d'un jardin verdoyant, hein, à l'abri des regards. Jean-Michel Chesnais a élevé un singulier monument à cette grotte chapelle de plus de 4 mètres de hauteur, un descriptif, hein, est le résultat de nombreux voyages et rencontres. Édifice hétéroclite est constitué, et c'est là l'important, de vaisselle, de miroirs cassés, de coquillages, tu vas le dire tout à l'heure, que tu les rapportes quelquefois de Bretagne par le train, des sacs de coquillages, de verroterie, patiemment collectés au fil des années, quelquefois tu vas pas très loin de l'autre côté du périph, hein, justement là où se tiennent des puces, où tu vas chercher des quelques assiettes que
remballage.
Voilà. Alors, l'antre abrite des œuvres, de tes œuvres, hein, on le sait, il y a aussi chez toi, on va en parler. Et donc, je voulais te demander, à partir de quand, donc pour la date, comment tu as commencé, quelle idée t'as fait pour que tu dises, je vais construire ça, parce qu'on parlait tout à l'heure du palais idéal.
Oui, comme tu l'as rappelé, j'ai eu plusieurs chocs esthétiques. Donc le premier, c'était en 82, quand j'ai vu ça n'a rien à voir, mais si quand même, puisque ça.
C'est quelque chose. Ouais.
Ça fait partie de mon parcours. Hein. Donc l'expo des papiers collés de Braque.
Ouais.
Donc j'ai été emmené voir cette expo à Beaubourg par un copain et ça a changé le cours de ma vie en fait.
Oui, à partir de ça, de l'exposition.
Donc, c'était une expo qui était jumelée aussi avec une expo d'Yves Tanguy, le surréaliste. Et donc c'est deux univers vraiment différents, mais j'ai eu deux coups de foudre le même jour. Ça me faisait beaucoup. Et donc je m'intéressais pas spécialement de loin comme tout le monde. Aux arts plastiques, enfin les grandes stars de l'art moderne, mais ça s'arrêtait là. Et donc, de fil en aiguille, j'ai creusé un peu le sujet en autodidacte, en consommant énormément. Consommant, c'est affreux mot. Énormément d'expressions, énormément d'expositions et dans les musées et dans les galeries. Jusqu'en 92, effectivement, où d'autres amis m'ont emmené. J'étais en vacances dans la Drôme, donc on n'était pas loin. Et ils m'ont emmené découvrir et visiter ce palais idéal du facteur cheval. D'ailleurs, je m'attendais à autre chose. J'avais en tête plutôt de la mosaïque. Je pense qu'à l'époque, je confondais avec la maison Picassiette.
De Chartres.
Et donc, nouveau choc. Et là, tout a basculé. Donc,
Et juste Jean-Michel, parce que j'ai évoqué tout à l'heure André Brink, hein, qui vient de disparaître. Et j'avais retrouvé le mot, j'avais cité que lui aussi, par rapport à la conscience politique ou la manière de voir l'Afrique du Sud, il était dans un milieu bourgeois et il a expliqué qu'à un moment c'est venu et il a parlé de bifurcation. Sa vie un jour a changé. Oui. Voilà. Et je dis toi aussi, mot bifurqué.
De carrefour. D'ailleurs, c'est pas tout à fait anodin. Ça résulte aussi d'une nécessité puisque vers 90-12. Je trouvais que j'avais fait un petit peu le tour, c'est un peu prétentieux encore une fois de dire ça, mais j'avais un peu fait le tour de ce qu'on appelle les classiques du XXe siècle. Et donc il me restait ensuite à découvrir l'art contemporain et je sentais bien que pour moi, au niveau goût et esthétique, c'était une impasse. Enfin, je le dis franchement. Donc je commençais à fureter du côté de l'art contemporain et là, j'y retrouvais pas du tout mon compte. Et donc cette visite est venue à point nommé et je me suis dit que là il y avait tout un monde à explorer et que c'était formidable pour moi. Donc donc les premières amours en art brut, c'est plutôt les environnements, plutôt dans les premiers temps, j'ai plutôt creusé par là. Et alors, je me suis aperçu qu'il y en avait d'autres en France.
Oui, c'est ça. Alors voilà, comment alors après que tu as
Curieusement, c'est justement ça a fait le lien par le biais de la carte postale. Quand j'ai fait ma visite au palais du facteur cheval, il y avait un petit porte-carte avec des reproductions de cartes anciennes. Et un jour, un ami m'a offert un original de ces cartes. Et ça m'a déclenché la collectionnite aiguë pour ce type de document. Donc je me suis rendu dans les salons, les conventions de cartes postales, les salons des vieux papiers. Et c'est grâce aux marchands qui m'ont indiqué d'autres endroits par le biais de la carte postale. Ils m'ont fait découvrir donc Picassiette, mais aussi les rochers, les fameux rochers de Rottenneuf, de la baie Fourée.
Situé là aussi, qui se trouve
à Rottenneuf, c'est la banlieue de
Saint-Malo.
Saint-Malo, voilà. Et donc je me suis aperçu qu'il y avait d'autres endroits comme ça. Et c'est comme ça qu'est née cette. Alors plus tard, au-delà des cartes postales, j'ai cherché de la documentation, des bouquins. Et alors cette passion pour les environnements ne m'a jamais quitté à tel point qu'un jour,
c'est ça.
En 97, ça m'a pris un dimanche après-midi. J'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Et donc sans prévenir les voisins, puisque je suis quand même dans une petite copropriété copropriétaire. J'ai esquissé les plans de ce qui allait devenir. Ouais, je savais pas exactement vers quoi j'allais aller. Hein. Donc, comme je le dis souvent, j'ai plutôt commencé par le toit. J'avais absolument envie de faire de la mosaïque. Donc, le soir, en rentrant du boulot, j'ai réalisé des petits clochetons, des petites formes que je stockais dans ma cave. Et un jour, je me suis dit qu'il fallait rassembler tout ça. Et ça a donné un projet plus sérieux que j'ai mené à bien jusqu'en 99. Je travaillais le soir en rentrant du boulot au spot dans le jardin. Et puis voilà. Ensuite, après la construction, la finition de la chapelle, je l'appelle la grotte maintenant. Oui. Et j'ai entamé les mosaïques sur le reste du jardin, sur les murs. Voilà.
Et alors, là aussi, on retrouve ça par rapport aux matériaux utilisés. C'est-à-dire, c'est toujours c'est l'idée des matériaux qui sont laissés de côté, rebuts, dont on ne fait rien. Alors, soit il y a une nouvelle vie, autrement. Et donc, cette utilisation-là, souvent, alors on retrouve ça, on le dit, bon, pour les auditeurs, s'ils s'intéressent un petit peu à l'art brut, c'est souvent le cas, hein, par rapport aux artistes d'art brut qui n'avaient rien, souvent, oui. Qui n'avaient rien, donc, en dehors d'un crayon, et qui ont utilisé des matériaux, et à partir, qui ont imaginé à partir de ces matériaux, souvent des matériaux mis au rebut ou qu'on peut trouver dans des brocantes, enfin bon, pour les brocantes plutôt pour les puces, mais même au-delà, dans des décharges, et qui leur redonnent justement une nouvelle vie. Alors là aussi, il y a la nécessité, il y a peu de moyens, et puis il y a une envie, comme reprendre l'expression de Laurent Danchin, un instinct créateur, hein, auquel on ne peut pas résister.
Alors c'est vrai que maintenant, il y a des gens qui directement, par souci, enfin c'est pas par nécessité ni par manque de moyens, travaillent avec la récupération. Là c'est plus une démarche entre guillemets intellectuelle. Mais c'est vrai qu'à l'époque, plus dans les années 60 ou même avant, c'était l'objet l'occasion qui faisait le larron. Mais en général, même pour des gens comme Picassiette ou Joseph Dufour, enfin, il y en a plusieurs, hein, qui ont utilisé la mosaïque, Robert Vasseur, Dacosta, enfin, il y en a pas mal. Au départ, il n'y avait pas de projet démesuré. Au départ, c'était juste pour recouvrir une jardinière ou un évier. Et c'est simplement le virus naît à partir de ces premiers objets de la vie quotidienne.
C'est ça.
Et donc, c'était juste pour ne pas jeter une assiette qui venait de se briser. Donc, on recouvrait un vase, etc. Et puis, selon les personnes, ça déclenchait une véritable monomanie, qui allait assez loin, puisque Picassiette, il a recouvert l'extérieur, mais même l'intérieur, le lit, la machine à coudre, enfin, c'est... Donc, voilà, Chaumeau aussi, lui, c'est par nécessité, il était sans moyens, donc il allait dans les décharges.
On va le rappeler, Chaumeau, c'était juste à côté de, en forêt de Fontainebleau.
Oui, à Cher-la-Forêt.
Voilà, exactement. Donc,
il avait un petit hectare, 900 mètres carrés, 9000 mètres carrés plutôt, de terrain.
On l'évoquera peut-être parce qu'il y avait eu quelquefois, tu avais fait un petit hommage, enfin, à Chaumeau aussi, hein, dans des différents. Alors, tu veux plutôt l'appeler la grotte de Malakoff, donc, il y a une possibilité de la visiter, hein, pour
tout
les auditeurs.
Oui, il suffit de téléphoner ou de m'envoyer un petit mail, et puis je peux ouvrir le jardin.
Alors, rappelez aussi, l'autre possibilité, c'est que pour Malakoff, en particulier pour cette commune, bon, il y a d'autres communes aussi en Île-de-France et ailleurs, il y a des journées portes ouvertes. Donc, c'est une possibilité aussi,
oui,
ça, de venir.
Oui, ça a lieu tous les deux ans, et là, ça tombe cette année.
Cette année, hein, c'est ça.
En général, faut surveiller, faut vérifier, mais en général, c'est le dernier week-end du mois de mai. Donc là, ça sera.
Alors quelquefois avec des invités, parce que là, sous les yeux, il y avait cette porte ouverte que tu avais fait, je sais pas quelle année. Il y avait invité que tu connais bien, Joseph Kuracek.
Oui.
Et puis Catherine Ursin.
Et puis j'ai eu Robert Ray aussi.
Et Robert Ray.
Et
voilà.
Christine Boisseau, dit Boistine.
Oui.
À chaque fois, j'invite un ami ou deux.
Qui peuvent partager
ce moment, c'est très sympa en fait, hein, parce que il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de rencontres, c'est festif, on va dire.
Alors, ce que l'avait dit tout à l'heure, c'est quelquefois aussi, puisqu'on disait l'importance aussi des coquillages, hein, voilà.
Oui, ça c'est une partie importante du recouvrement.
Oui.
Donc ça, je passe deux, trois fois, disons deux fois par an, mes vacances dans le Finistère Nord.
Oui.
Et donc, les plages sont très abondantes de Bernic, les chameaux chinois.
Oui.
et puis toutes sortes de petits coquillages Jean Bigorneau. Donc j'en ramène des kilos par le train. Ça me sert de base un petit peu pour certaines parties de ma mosaïque. Enfin, il n'y a pas que ça, hein, mais il y a beaucoup d'assiettes cassées, de gens qui m'amènent des choses.
Oui.
Je les rassure en disant que justement, elles seront réintégrées dans une œuvre d'art pour l'éternité. Donc ça, c'est comme ça que je rassure aussi les marchands des puces. Enfin, j'y vais beaucoup moins en puces devant parce que mon stock était.
Oui, énorme, parce maintenant. Que là, oui.
Mais avant, c'était une de mes sources de matériaux, le remballage des puces devant. Au gré d'un coup de vent, il y avait pas mal de casses de vaisselle sur place. Et donc, l'occasion aussi de discuter avec les gens. Donc, voilà, il y a toutes sortes de sources au niveau matériaux. L'idée, c'était justement de pas dépenser d'argent. J'ai juste les frais de colle à carreaux, quoi.
Donc. Oui, parce que tu évoques aussi, là, comme je parlais tout à l'heure, de sculptures en plastique fondu.
Oui, ça, j'en fais plus. Hein,
oui,
c'est
ça,
quand même toxique.
Ça, oui, c'est ça aussi. Et là, avoir... Alors, on peut voir ça dans le jardin de Malakoff, des centaines, je vais dire, de têtes en céramique. Mais il y a eu un autre lieu où il y a eu cette exposition-là qui a été faite. Tu veux en parler un petit peu, c'était...
Oui, je collaborais avec une association qui était basée à Saint-Sever-du-Moustier,
oui.
dans l'Aveyron,
ouais.
qui s'appelle les Nouveaux Troubadours. Mmh. D'ailleurs, c'est devenu un petit musée local très actif, qui s'appelle le Musée des Arts Buissonniers, donc orienté sur l'art brut et l'art outsider. Mmh. Et donc, dans les années 2000, je collaborais avec eux et je montais des expositions autour de cette forme d'art pendant 5-6 ans. Et donc, quand j'étais sur place pour garder l'expo, j'en profitais aussi pour travailler. Et donc, j'ai installé sur la place du village une fresque de centaines de petites têtes en céramique.
Mmh.
J'ai fait participer la population d'ailleurs, les visiteurs, les enfants du coin, et les gens du village à confectionner quelques
oui,
têtes.
C'est enfin, ça, oui.
Voilà.
Oui,
c'est
oui.
une sorte de projet collectif. En fait,
oui, voilà. oui, qui existe là-bas toujours.
Oui, oui.
Ah, c'est ça. Oui.
Donc là-bas, il fait beaucoup plus froid, donc il y a des petits problèmes de conservation. Parce qu'il gèle, donc bon, ça c'est un détail, mais j'ai continué à le faire chez moi, ce genre
oui.
de choses, de réalisations.
Alors, il y a ça aussi, et l'importance que ça a pris, alors tout autour de ce jardin, je le rappelle, situé à Malakoff, il y a aussi les mosaïques. Les mosaïques, alors là, aussi, c'est pas à n'importe quel endroit, c'est des murs, par exemple des murs qui mitoyens en particulier là de l'autre côté, c'est un garage
oui, hein,
qui existe
un
à Malakoff.
Oui.
Et donc ce qui est de voir, c'est que tu t'es servi de ce mur ou de cette de ces éléments, de cette architecture pour ou toute simple, hein, tout simplement pour la recouvrir. De mosaïque, mais maintenant c'est pas une petite partie, c'est l'ensemble qui est recouvert.
Oui, il a une forme, ce garage typique des petites manufactures ou des petites ouais. usines avec des toits en dents de scie là.
Mmh. Ouais.
Et donc j'ai utilisé ces formes pour.
Oui, tu t'es servi de ça, de
voilà,
un
pour,
peu
pour installer ouais, pour, une mosaïque. Ouais. Effectivement, ouais. maintenant ça occupe toute la surface. Et donc ils sont au courant, hein, parce qu'ils me voyaient à travers les vitres, les vitres dépolies. Ils me voyaient pendant des semaines sur mon échelle, donc ils ont fini par me demander ce que je fabriquais. Donc je leur ai expliqué. Donc il n'y a pas eu trop de problèmes.
Et c'est là que tu utilises alors en matériaux des coquillages aussi.
Des coquillages, voilà. beaucoup de vaisselle, hein.
Oui, oui, oui.
De vaisselle essentiellement en fait.
Et plus de vaisselle.
Oui, oui.
Oui, oui, exactement. Mais en fait, il y a quand même quelques coquillages. Alors après, c'est ça aussi par rapport à la durée. En même temps, la fragilité peut-être pour les coquillages plus que pour d'autres parties pour résister.
Oui, sauf que les berniques, c'est quand même assez costaud,
ouais.
hein, donc je suis pas trop inquiet pour ça. Il faut protéger ça avec des couches de vernis, hein, quand même. Mmh. Mais bon. Et puis quant à la vaisselle, c'est quand même émaillé, ça bouge pas. Et puis, donc c'est plutôt costaud, en fait.
Alors, l'aspect aussi, donc, de visible, pour que ce soit, faut pénétrer, hein, faut rentrer,
ah, c'est caché,
voir,
on voit
accès
pas
dans le jardin, ouais. Voilà, on voit pas très bien. Mais t'avais eu un moment, une envie, enfin, je pense que tu l'exprimes aussi dans cette vidéo, de sur la façade, à l'extérieur, donc on parle pour Malakoff, hein, des rues quand même assez animées, oui. De faire sur le bâtiment externe, une mosaïque.
Et t'as ça reste prononcé, un fantasme, ouais, ça reste une envie.
Et la possibilité de le faire aussi.
Alors
c'est
bon,
ça
après, ouais. Je sais ouais, plus, ouais. J'en avais discuté avec Madame le maire. Elle n'y voit aucun inconvénient. Je sais que maintenant, la tolérance...
c'est ça,
quand même
zéro.
Beaucoup. C'est au ras des pâquerettes, on va dire.
Oui,
parce que même, il était question qu'un texte de loi passe pour empêcher les gens de faire de leur art, de leur environnement, une œuvre d'art.
Ouais.
Suite à la maison du chaos, située dans le centre.
Ah oui, ça,
rappelle. Parce que ça a déclenché un tel scandale auprès des riverains que il y a un député qui a eu cru bon enfin je crois que ça s'est pas fait hein, mais voilà, en tout cas pour moi je sais pas au niveau légal, je pense qu'il va falloir que je dépose une autorisation. On n'est plus du temps du facteur cheval ou de pique-assiette, on pouvait pas n'importe quoi. Et puis j'aurais des contraintes un peu compliquées techniquement, enfin même c'est plus au niveau du confort de travail,
voilà,
parce que c'est le trottoir est très étroit, et la rue très passante au niveau pollution et bruit, c'est très difficile. Ouais.
Donc, et puis on l'a déjà évoqué, plus près du centre, plus près du pouvoir. Pour l'Île-de-France, et là c'est le cas pour Malakoff, c'est quand même près de Paris. C'est la difficulté de faire des lieux différents de l'extérieur, et on voit que la province, il y a quand même un petit peu plus de possibilités, que là ça devient extrêmement dur en ville, hein, c'est ça, on peut dire qu'il n'existe quasiment pas.
Je crois qu'il y a
une chasse,
une déclaration de ravalement
à tout,
ça serait
à toute expression, puisque c'est la liberté d'expression, tu sais, ça touche Charlie absolu, comme on sait, de pouvoir dessiner sur les murs, hein, ce que ça peut poser.
Ça fait l'objet de quelques parfois de faits divers. Il y avait eu tout un pataquès aussi, je crois, en Bretagne, avec une personne qui avait un petit peu aménagé sa façade de manière un peu trash, certes, mais qui lui a attiré beaucoup d'ennuis, en fait.
Oui, alors ce qu'on considère, évidemment, pour nous, c'est quelque chose, au contraire, d'accessible.
On peut s'exprimer, mais il faut que ça soit de l'ordre du bon goût, on va dire.
Et que quand c'est, évidemment, des grands panneaux publicitaires, ou des panneaux de com, évidemment, c'est dans le bon goût absolu. Là, on n'a rien à redire. C'est même encouragé et même protégé, sinon grillagé. Alors, Jean-Michel, c'est vrai que ça passe assez vite. Alors, je voulais aussi, puisque tu avais évoqué la collection des cartes postales. Alors, tu en as un petit peu parlé. Alors, on pourrait, à partir de ça, évoquer un numéro particulier de Gazogène, une revue auquel tu as participé pour certains numéros, et puis parler du créateur un peu, de Jean-François Maurice.
Oui.
Hein, pour ça. Alors c'est pour ça on va pas faire de partie musicale, je pense pas.
D'accord.
On va essayer. Tu vas voir un petit coup et on va essayer d'aller jusqu'à midi. Mais il y a tellement de choses. Alors pour ça, parler un petit peu du point de départ, donc de nombreux numéros, plus de 20 ans, je pense, pour Gazogène, la revue.
Oui, 35 numéros.
Voilà, pour Jean-François Maurice, alors qui est acquitté il y a un an.
Oui, donc il est décédé au mois de mars dernier, fin 2014.
Voilà.
Donc c'était à la base, il fait plusieurs métiers, mais il a été essentiellement prof de philo dans la ville de Cahors. Il était passionné par le sujet, par l'art brut et les arts populaires d'une manière plus large depuis pas mal de temps. Et c'est en 91 qu'il a lancé, créé une petite revue qui était plus de l'ordre du fanzine. Il faisait ça dans son sous-sol.
Ah oui, les premiers.
À la photocopieuse, c'était assez créatif au niveau de la forme.
C'est-à-dire
qu'il y avait des petites couleurs, des photos collées, des petites choses glissées à l'intérieur, des petits originaux qu'il demandait aux artistes. Donc ça, c'est une formule qui a duré 10 ans. et plus tard, qui a duré exactement 16 numéros, un peu moins de 10 ans.
Et alors juste sur cet aspect-là, pour les premiers numéros, il y avait aussi l'intérêt, le goût de s'intéresser aux écrits bruts.
Hein,
c'est ça,
oui,
ça c'est une spécificité.
Il était aussi libertaire.
Donc, s'intéresser aux écrits bruts, voilà, hein, tout ça. Pour les points de départ et de voir que évidemment, comme là, alors je sais pas, c'était déjà du côté de Cahors où il était au tout début. De voir que dans les provinces, hein, c'est ça la possibilité, parce que là, il se trouvait là pour révéler ces écrits bruts qui existent un peu partout, hein. Mais souvent c'est ça, c'est que les auteurs ne les, par définition, ou souvent ne les montrent pas.
Ne les diffusent pas.
Hein, voilà, on les connaît pas, donc c'est aux autres de faire le travail d'aller les chercher. Alors c'était comme ça, par ça, parce qu'il a fait tout un travail justement sur l'écriture, hein,
oui,
importante,
oui.
Justement, puisque on a parlé des différents langages, j'en ai évoqué la semaine dernière. La langue officielle, enfin les différents langages, la poésie, hein, et puis le langage populaire, les détournements, enfin tous ces aspects-là qui nous intéressent et qui nous passionnent pour sortir justement du formatage et de la langue officielle. Alors il y avait ça au point de départ dans cette revue Gazogène, et puis après il y a une ça a pris avec un début artisanal, un peu
complètement artisanal, hein, pendant 16 numéros. Et ensuite, il s'est coquiné avec un éditeur, un imprimeur qui était du côté de La Rochelle, je crois, et qui éditait une belle revue qui s'appelait Planchant.
Ah ouais.
Et donc là, il peut avoir accès à des travaux d'imprimeur plus professionnel, quoi. Il est sorti de l'aspect artisanal. Il a pu du coup diffuser sa revue d'une manière plus large, mais elle était essentiellement diffusée de manière par abonnement et puis dans des librairies un peu spécialisées ou assez pointues, type même librairie de la Halle Saint-Pierre.
C'est ça, il faut le préciser, hein, beaucoup donc de revues différentes, de documents différents, de bouquins, d'ouvrages, c'est la Saint-Pierre,
hein, oui, qui rassemble à Paris,
voilà,
en tout cas.
À Paris, pour Paris, voilà. Paris.
Et donc, en fait, Gazogène faisait partie d'un ensemble de revues qui existaient, enfin, plus de fanzines d'ailleurs.
Oui.
Tous interconnectés les uns avec les autres, puisque les gens, leurs créateurs et leurs directeurs se connaissaient les uns les autres, écrivaient chacun dans les revues des autres. Enfin, c'était toute une espèce d'animation comme ça qui était très intéressante pour justement faire connaître cette forme d'art.
Et alors, juste ça, dire, puisque j'ai le numéro 27, hein, l'International des Rocailleurs, la revue Gazogène, et dire justement, Gazogène se veut la revue des créations singulières, l'art brut, l'art populaire, hein, justement, puisque on veut pas dire donc de faire des ségrégations, dans leurs manifestations les plus humbles, comme dans leurs réalisations hors les normes, hein. Alors autour, revue d'art brut, singulier, outsider, hein, puisque on va pas redéfinir peut-être ce matin, expression marginale ou bizarre, et le numéro, alors le dernier numéro, donc Jean-François Maurice, il n'y a pas de continuité pour la revue.
Alors le
Gazogène,
dernier numéro, il est consacré un ensemble au folk art américain.
Ah oui.
Donc il a été fait l'année dernière pour servir de catalogue à une expo que j'avais montée à la Biennale hors les normes de Lyon en 2013. Et donc la continuité pour l'instant c'est complètement en stand-by. On attend que les choses retombent un peu. C'est un scoop, mais il faut pas le dire. Il risque d'y avoir un numéro 36 en hommage à Jean-François en 2016. D'accord. Donc pour l'instant, qui sera lié avec une exposition au musée des Beaux-Arts de Cahors.
Alors juste puisque tu l'évoques, la folk art, pour les États-Unis, il y a un projet d'exposition, tu m'as parlé, non, bientôt, pour toi.
C'est-à-dire que j'ai je collectionne un peu l'art brut et l'art singulier, enfin toutes ces formes-là, depuis, on va dire, 15-20 ans. Et il y a 5-6 ans, je me suis plus orienté vers le folk art américain. Et donc j'ai montré ma collection lors de l'inauguration des locaux de Gazogène en 2012. Mmh. Oui, c'est ça. Et puis à la Biennale hors les normes de Lyon en 2013. Et le petit musée Art et Marge de Bruxelles m'a contacté à la fin de l'année dernière pour me proposer de montrer cette collection à partir du 24 février. Et ce, pendant 3 mois, à Bruxelles. Donc, le catalogue de cette expo, ça sera encore le Gazogène numéro 35. Donc,
voilà,
de donner une pérennité,
oui,
à l'œuvre de Jean-François.
Et pour le trouver, alors, justement, pour Gazogène, pour des auditeurs, des gens qui s'intéresseraient, je leur conseille.
On trouve les Gazogènes à la Halle Saint-Piel.
À la Halle Saint-Piel. Hein, c'est ça, et pas forcément à l'adresse à Cahors, non,
c'est plutôt.
Donc il y a une possibilité de donner.
De contacter la librairie ancienne Rappeau.
Oui.
À Place de la République, 46 000 Cahors.
À Cahors. Donc, alors là, celui-là, le numéro 27, je le disais, international des rocailleurs. Là aussi, il y a un petit texte, c'est remarquable, j'ai trouvé ça. À la fin, tout à la fin, un article que tu as écrit avec une photo. On pourrait dire quelqu'un qui était clochardisé, qui s'était clochardisé, mais en même temps qui accumule des morceaux de papier, des morceaux de carton, des morceaux, ouais, de chiffon, et qui fait lui-même en déplacement.
Il a fait de son apparence une véritable. Enfin, c'est ce que je ressens.
Tu ressens, ouais.
Je pense que le pauvre, il avait peut-être pas cette démarche-là,
non,
mais quoi qu'on peut se poser la question.
C'est ça.
Parce qu'en fait, il s'est confectionné une sorte de manteau matelassé avec des couches monstrueuses de papier et de ficelles et de carton. Il fait une sorte de carapace de samouraï.
C'est
très impressionnant.
Oui, c'est ça. C'est ça, et en même temps, donc, de voir que pour lui, cette réalisation-là, et c'est ce que l'on disait, de sublimer, enfin, il y a une misère, alors évidemment, lui, il ne ressent peut-être pas comme ça, et on ne sait pas, hein, de montrer à, je ne sais pas où c'était, c'est aux États-Unis, hein.
Oui, c'est aux États-Unis.
Quel endroit, donc,
c'est une carte postale, en fait.
Une carte postale que tu as trouvée, voilà.
Et alors, ce qui est incroyable, c'est que d'avoir pu, et je le retrouve beaucoup en Europe et en France, il n'y avait pas ce politiquement correct à prendre et à éditer des photos de choses qui maintenant nous choquent ou
c'est ça
considèrent comme infréquentables.
Restriction absolue dans laquelle on est. Alors pour la revue, on a évoqué Gazogène, donc je disais d'autres revues auxquelles tu as participé. Alors en particulier, il y a eu cette revue, mais Zonard.
Oui, hein, je crois que tu as reçu Denis Lavaux, le directeur de la
Zonard. Et je ne l'ai pas cité tout à l'heure, voilà. Ah. Et Denis Lavaux est venu plusieurs fois.
Donc c'est grâce à Denis Lavaux que j'ai rencontré Jean-François Maurice.
Ah oui, d'accord.
J'avais rencontré Denis Lavaux, je lui avais écrit pour signaler que j'étais l'auteur d'un petit édifice, la grotte.
Mmh. C'est ça, là, il y a eu un numéro.
En 2000, hein, donc ça l'a intéressé pour alimenter les pages pour faire un petit article.
Mmh,
on s'est rencontrés comme ça. Et plus tard, il a parlé de moi, Jean-François. Il lui a parlé de ma collection de cartes postales et de mon environnement. Et c'est comme ça que Jean-François m'a contacté, parce qu'il était intéressé au plus haut point par ce type de document. Jean-François avait un côté archiviste. Enfin, et c'est comme ça qu'il m'a proposé de faire le premier numéro de Gazogène consacré à ma collection. C'est le numéro 24. En 2003, je crois.
En 2003.
On en a fait plusieurs ensemble.
Oui, c'est ça. Celui-là, je voyais, je citais le numéro 27. Alors, on le rappelle, vous pouvez les trouver. Vous pouvez en trouver, enfin, peut-être pas la totalité, mais beaucoup à la Halle Saint-Pierre, rue Ronsard.
De rue Ronsard.
Métro Anvers. Et alors, aussi peut-être des numéros de Zonard. à la Saint-Pierre, hein, oui. Parce que peut-être que là,
ils ont peut-être plus tendance à être épuisés maintenant.
Épuisés, hein, c'est ça par rapport à leur...
Zonard, c'est
formidable sous la forme de fanzine.
Hein. Ah, vraiment
alors,
fanzine.
Alors là, extraordinaire. Moi, j'ai trouvé, bon, c'est comme ça. Ben, ça a été, je pense, une période de 10 ans, non? Peut-être à peu près.
Il y a 21 numéros. Peut-être un peu plus
par rapport à par rapport à Denis Lavaux. Et là, j'étais. C'était l'été 2003. Alors, il avait fait un édito, bon, qui était aussi liberté d'expression. Je vais pas me gêner. Et singulier, vous avez dit singulier, comme c'est singulier. Alors, ils en prenaient aussi à faire tout un tas de gens pour les distinctions, les classifications, art brut, art singulier. Enfin, et là aussi, citant justement Dubuffet, là, avec son rappel de l'imaginaire, de l'invention, de la création, de la créativité, et pour éviter de ressembler, comme dans les arts culturels, où on ne trouve que des caméléons, des singes et des caméléons, comme avait dit Dubuffet. Et puis, citer aussi, que l'on connaît bien sur les anarchistes, évidemment, Michel Ragon, les singuliers de l'art. Alors, Michel Ragon notait que ceux-ci ne sont singuliers que dans la mesure où ils ne jouent pas le jeu, voilà, de la culture et du marché officiel. Le jour, dit-il, attention, où ils exposent dans un musée, leur singularité commence à s'émousser. Alors voilà, c'était un petit peu tout ça, puisque aussi la recherche d'environnement, hein, avec Denis Lavaux et le jardin aussi.
Oui, c'était un petit peu le moteur de sa passion, de sa revue. Mmh. Et la revue s'est arrêtée. Denis Lavaux, c'est quelqu'un qui ne conduit pas. Et donc, il avait quelqu'un de proche avec qui il faisait pas mal toutes ses virées, qui a quitté Paris. Donc, ça a un petit peu stoppé la revue à cause de ça.
Voilà. Et elle est venue, on le rappelle, pour le festival... De films, à la Maison des Cultures.
C'est quelqu'un qui est très proche de Saint-Pierre et qui
formidable,
carte blanche pour monter festivals de films autour de l'art brut.
Alors, Jean-Michel, donc, autre revue, j'ai dit tout à l'heure La Création Franche, mais là, il y a une revue internationale quand même, il faut le citer, Revision. Hein, Revision, alors, avec, au début de Revision, il y avait là Laurent Danchin, enfin, qui s'en occupait un peu. La traduction, c'était en français.
Oui. C'est-à-dire c'est une textes, revue qui a 25 ans maintenant, qui a été créée par un peintre anglais, John Maisel. Mmh. Ah, oui. Et Laurent Danchin est toujours le correspondant France-Europe, enfin, pour la revue. Ouais. Et à l'époque, ils avaient tendé une version française, qui a duré quelques numéros, vraiment traduite.
Mmh. Ouais.
Ensuite, c'est avéré qu'il n'y avait pas assez de lectorat pour continuer la version française. Ensuite, il y avait un insert. Dans la version anglaise, il y avait un insert papier de la traduction. Et puis ça c'est revenu à la version anglaise maintenant.
Alors, important tirage quand même et présent dans nombreux pays quand même pour la
pour
cette revue.
Oui, je crois qu'elle a été même... nommée revue de l'année par l'UNESCO, revue d'art de l'année en 2008.
C'est ça, exactement. Voilà. Reconnaissance.
Donc elle a eu plusieurs.
Alors reconnaissance, on
ne
parle pas de la valeur officielle, mais en tout cas, l'importance que ça a. Et donc là aussi, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas cette revue, vous pouvez évidemment la trouver.
Elle est largement distribuée à la Halle Saint-Pierre.
Distribuée à la Halle Saint-Pierre.
Qui a fait son expo, son avant-dernière expo.
C'est ça. Il y avait
pour fêter les 25 ans de la revue, ils ont donné carte blanche à John Maisel.
Ouais, ouais.
Et donc, ils ont fait une formidable expo qui rassemblait toute cette forme d'art mondiale. Enfin, voilà. Donc, c'est une expo qui a duré d'ailleurs plus longtemps que d'habitude. Elle a duré presque un an.
Alors, ça pour ça. Et puis, je rappelle, alors, participation aussi. Alors, l'autre vue, extrêmement sur le plan esthétique, je dirais, hein, pour la réussite, la création franche. Le dernier numéro, elle est de nombreux articles, et toi, t'as participé à cette...
J'ai fait un article Joseph Koracek.
C'est ça.
Et puis, Denis Lavaux a écrit sur mon travail.
Oui,
aussi,
c'est pour ça.
Je suis des deux côtés, j'ai plusieurs casquettes.
C'est pour ça que... Donc
c'est la revue qui... est édité par le musée de la création franche
à Bègles. Alors voilà, cité à Bègles.
Donc c'est pareil, la formule a évolué au fur et à mesure. Jean-François Maurice faisait partie de l'équipe du départ. Il a même été directeur de la rédaction, rédacteur en chef plutôt.
Oui.
Rédacteur en chef. Et puis, je crois qu'il a écrit récemment, juste avant de mourir, il a fait un article encore sur ce support.
Alors, est-ce qu'il paraît que peut-être qu'ils vont trouver un autre local plus grand à Belle?
Ah oui, il est question que le musée déménage. Oui.
Alors, pourquoi soutien des édiles pour une fois, Noël Mamère, donc...
Et partie prenante depuis le départ.
Largement depuis le début, hein, rappelons.
Oui.
Donc, quand on parle, on dit toujours évidemment beaucoup de bonnes choses sur les politiciens, mais dans ce domaine-là, c'est quelque chose que l'on peut reconnaître, et alors, en tout cas, d'aller continuer, puisque d'aller voir si vous ne connaissez pas ce lieu de la...
Donc lieu ce jour-ci,
est revu.
Il y a un vernissage là-bas, autour de l'œuvre de Michel Dave, un des pensionnaires du fameux atelier de la Pommeraie.
Rappeler ça, voilà. Alors, Jean-Michel, aussi, ce que l'on peut dire pour toi, le blog aussi, on peut trouver sur Internet. Alors donc, ce
oui,
blog,
en tant
que
mon nom, c'est ce qui sort en premier, en fait. Enfin, on peut le rappeler là, mais...
Oui, oui.
C'est quoi J.M. Chenet. Enfin, allez
oui,
voir.
Oui, mais ça, voilà. Simple. Non, simplement moteur de recherche.
Donc là, il est un petit peu en panne, mon blog, là.
Oui.
J'ai un peu...
Pour rubrique,
les...
oui, mais en même temps, il y a beaucoup de choses, hein, de voir rubrique sur rubrique.
Effectivement, je rends compte de mes promenades, mes balades, mes découvertes et mes coups de cœur. Toujours à propos de l'art brut. Et puis, je parle pas mal de mes cartes postales aussi.
Oui, alors ça, juste, vas-y, encore, pour juste quelques minutes qui nous restent.
Je réalise des petits articles à partir de ce support, en essayant de raconter un peu les biographies des auteurs qui sont montrés... par ce biais-là.
Oui.
Et donc, c'est toujours assez intéressant de voir que, dès le début du XXe siècle, l'art insolite existait et surtout avait suscité un intérêt
de
la part des photographes.
Exactement.
Donc, parce que les cartes postales anciennes, ce qu'on appelle les CPA, ça date quand même des années 1904.
Du début, 6, 8, voilà, 12, du XXe siècle, hein, où ça a été des millions. Enfin, des millions, des millions, parce que c'était le moyen, c'était
donc,
le mail.
En fait,
hein,
c'est une mine, pour l'instant, assez intéressable de documents.
Et liberté d'expression sur ce qui était représenté.
Tout à fait.
Que là, on pourrait
parce
plus.
Au-delà des standards et des lieux les plus connus, Picassiette, Cheval et autres Rottenneuf, il y a des dizaines de lieux qui ont fait l'objet d'éditions de cartes postales en plus petit nombre. Hein. Des fois, il y en a une série de six. Mais ça suffit pour... d'écrire des choses tout à fait insolites et incroyables.
Oui, alors moi j'avais noté, je sais pas, les termes comme passion, émotion, curiosité, c'est ça qu'il faudrait, hein, que chacun d'entre nous, hein, la curiosité, et là en particulier pour ces œuvres qu'on dit singulières.
Ce qui est intéressant avec la collection de cartes postales, c'est on ne sait pas ce à quoi on va s'attendre, sur quoi on va tomber.
Ouais.
C'est sûr que pour la collection de l'art brut, la littérature et les expos nous font connaître tout ce qui existe. Donc, on sait ce qu'on cherche. Pour la carte postale, on ne sait pas sur quoi on va tomber. C'est toujours une surprise et c'est assez merveilleux de découvrir des nouvelles choses à chaque fois. Mais enfin là, je commence à avoir un petit peu fait le tour depuis 20 ans. Mais bon, je tombe encore sur des petites pépites.
Alors juste se rappeler, parce que l'émission se termine, vous le savez, après c'est une émission sur la chanson de Rimes et de Notes, hein, Marlène, enfin ses invités. Alors restez à l'antenne de Radio Libertaire. Juste aussi une exposition pour l'art brut. La possibilité, est-ce qu'il faut comparer? Je n'en sais rien, mais vous en avez la possibilité au fameux LAM, c'est-à-dire au Lille Métropole Musée d'Art Moderne, Art Contemporain et Art Brut. C'est une première, l'art brut y est présent, hein, donc à Villeneuve-d'Ascq, à côté de Lille. Et là, à partir du 14 février, vous voyez, c'est bientôt, jusqu'au 10 mai, incontournable de l'art brut, Aloïs Corbaz, en constellation. en Constellation. Alors, il y aura plein de choses, évidemment, qui se passeront là-bas, d'événements autour de la musique, des concerts, des rencontres, des conférences, même des lectures, tout ça tout autour de cette Constellation, puisque c'est une Constellation,
oui,
comme
une
titre...
Une des classiques de l'art brut.
L'exposition, voilà, Eloïse Corbaz. Et même la projection, et là, ça sera le 3 mai, hein, pour du film de Liliane de Kermadec, avec Isabelle Huppert, Delphine Seyrig et Michael Lonsdal, hein. Recommande, pour rentrer que peut-être avec l'intérêt, Aloïse, on ne connaît pas, de voir le film, je ne sais pas. Alors en tout cas, formidable, enfin tout ça, moi j'ai reçu le carton très très beau, hein, c'est ça.
Oui, une sorte de triptyque.
Ah ouais, ouais, de. Et paraît-il qu'il y aura là-bas, je ne sais pas, une œuvre de plusieurs mètres, sinon plus de 10 mètres, donnée par un collectionneur, donc.
Mais déjà, au LAM, il s'agit de la collection de la Racine, qui a été donnée au Musée d'Art Moderne. Donc
ça,
ils ont construit une extension pour accueillir cette énorme collection. Et il y a déjà des très grands formats d'Aloïse qui sont montrés sur des rouleaux.
Ouais.
Sur deux rouleaux pour pouvoir dérouler justement cette œuvre qu'elle faisait au kilomètre en fait, hein, en collant plusieurs pièces de plusieurs laits, plusieurs laits de papier les uns à la suite des autres.
Alors Jean-Michel, bon, l'émission va se terminer. Alors justement, rappelez que pour ce soir, enfin, à partir de soir, c'est le vernissage, c'est le début, le premier jour de l'exposition. On le rappelle, à l'Écu de France, exposition Folle Dentelle avec, tu voulais lire juste un petit peu?
Je voulais dire que ça rassemble quand même 15 artistes.
Voilà,
hein,
voilà, c'est
qui travaillent
important.
De toutes sortes de façons, le textile et même le métal. Donc je vais pas faire la liste là, sauf si, non, on n'a pas le temps.
Ouais.
Et donc voilà, j'ai pas vu l'expo, hein. Ça va être une découverte pour moi aussi,
ben voilà,
ce soir.
Pour tout le monde. Alors je rappelle, Écu de France, 1 rue Robert Cahin, à Viroflay, c'est près des arcades de Viroflay.
C'est assez sympa, trop.
Enfin, voilà, la grande rue, comme on l'appelle, l'avenue.
Il y a un petit train à partir de Montparnasse.
Ah oui, aussi.
Pour descendre à Viroflay.
Pour descendre
gauche,
à Viroflay, voilà. Il y a les arcades, les fameuses arcades de Viroflay. Et c'est là que ça se trouve. Donc, juste, alors on le rappelle, du 12 février au 22 mars 2015, l'exposition collective Folle Dentelle. Alors Jean-Michel aussi, j'avais un petit papier de Zonard, là, que j'ai retrouvé. Et c'était pour une expo avec le concours Bernard Dattas, Pascal Julou, qu'on l'a pas cité, ou Michel Leroux, voilà, Marc Vernier. Et ça s'appelait « Ouvre donc les yeux, camarades ». Alors c'est ce qu'on a essayé de faire un peu ce matin pour nos amis auditeurs, pour les anarchistes, les libertaires. Ouvrons nos yeux, justement, dans tout un tas de domaines et ne soyons pas séparés, classifiés. Par rapport, plus que certains ont dit, on en a besoin, surtout à plus peut-être en ce moment, ou après les fameux événements, on va revenir, vous le savez, ce qui s'est passé au début de cette année 2015. Certains évoquaient justement les arts, l'art, alors peut-être les vrais, hein, les vrais, les authentiques, les vrais créateurs, et puis l'humour et l'ironie, hein, pour justement se défendre, mais aussi, c'est ce qu'on a fait ce matin, proposer, donc ce qu'on vous propose, cette exposition, et aussi de contacter, d'aller voir la vidéo sur Internet, hein, Jean-Michel Amalakoff, pour la grotte, et puis pour le jardin, et puis pour tes œuvres dentelles, dont vous verrez. Allez voir aussi, vous, si vous le souhaitez, sur le blog, et puis aussi, eh bien, cette exposition, comme je vous le dis, à Viroflay aujourd'hui. Et c'est un moyen, justement, c'est un moyen important, hein, puisque aussi, on le dit sur Radio Libertaire, d'autres émissions, il y a à Racaille, vous le savez, c'est le mardi matin, Les Oreilles Libres, il y a Entre Chien et Loup, il y a plusieurs émissions. Allez voir justement le podcast, puisque cette émission est podcastée, elle reste à peu près 5 semaines. Vous pouvez la réécouter. Et donc, ces émissions qui s'ouvrent évidemment à cet art, comme on dit, brut, singulier, mais qui permet justement de sortir de tout ce conformisme et d'éviter de trop ressembler, comme disait Dubuffet, et comme je vous en ai parlé tout à l'heure, à des caméléons et à des singes. Et pourtant, si c'était des vrais singes et des vrais caméléons, on aimerait ça. Jean-Michel,
merci.
Donc voilà, ben, une prochaine fois, au contraire, hein, et puis Restez à l'antenne de Radio Libertaire, toutes les émissions de l'après-midi, peut-être Bibliomanie aussi à 15h, vous le savez. Et puis tout de suite, l'émission de Rimes et de Notes avec Marlène. Chronique Hebdo, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Salut.